France Inter.
Et c'est la bande originale avec Leïla Kadou Miladi, Isabelle Mathieu, Belle Emma Beaujean, Tanguy Bassureau, Aldela, Daniel Morin.
Salut Jackie.
Et nos invités, Chirine Boutella et Arthur Dupont.
France Inter. Bande originale.
Je vais m'égosiller, mais c'est pas grave. Ravi de vous accueillir, merci beaucoup. Chérine, merci Arthur d'être là. Comment allez-vous d'abord, Chérine ?
Hyper bien, c'est vrai. Trop content d'être là.
Mais ouais. Cool. Je suis un bon végétarien, heureux de vous accueillir pour cette série carnivore, cannibale. La famille Rose, c'est une série de genre. Ouais. Donc plutôt que de faire un tour de table pour savoir qui a déjà mangé quoi chez l'homme, je vais plutôt vous demander qu'est-ce qui vous fait peur au cinéma ou dans les séries. Vous savez, les moments où on est dans une salle et on tourne la tête en se disant « Ah non, je veux pas avoir sa Mélodie Fontaine. »
Globalement, un enfant dans un couloir.
Oui, tellement d'accord.
Qui traîne un doudou derrière lui, qui traîne un doudou.
Exactement. Et figure-toi que ma fille peut faire ça et je ne peux pas y aller. T'entends maman dans le noir et tu fais « Oh, du
dépôt exprès. »
Et avec cette musique.
Bien sûr.
Non, même pas la musique.
C'est pire.
Okay. Ah ouais. C'est pire, juste le rire de l'enfant.
Ah là là. Écoute.
Une petite berceuse qui tourne comme ça.
Vous n'aimez pas les enfants.
Bah, si, si, mais.
Lisa, dès le moitié, il va falloir trouver autre chose que un enfant fait peur au cinéma.
Moi, c'est les clowns.
Ah ouais.
Ah bon?
Ah, vraiment
ouais.
Ah ouais.
Ah ouais.
Ouais.
Pas mal aussi. Ouais,
pourtant j'en suis devenue. Hein.
non, on te rassure, non. Emma.
Moi j'ai été trauma par une pub, mais je crois qu'elle passait au cinéma à un moment. C'était le sous les ongles d'orteil. C'est moi, le champignon.
Oui. Ah. Tu vois, c'est... Ah oui.
Et ben, Daniel, il y a des mycoses souvent.
C'est moi qui faisais la pub. C'est Leïla qui me les a filés.
Et voilà, ça me fait trop peur. Et du coup, je crois tous les trucs qui touchent aux ongles et tout, enfin, ou je sais pas, sous les.
Perdre ses ongles.
Ouais, par exemple.
Leïla.
Moi, tout me fout les chocottes en général dans les films. Donc, en fait,
la dernière fois que t'as tourné la tête. Au cinéma.
Ah, au cinéma.
Ici, c'est quand Daniel te parle trop près.
Mais
il n'y
a pas l'odeur au cinéma.
Dans la famille Rose. Quand votre fille, la fille du couple, s'attaque à sa première victime.
Tu as dit quoi ?
S'attaque à sa première victime.
Ok.
Ça, j'avoue que j'ai eu un petit. Je me suis dit, ouf.
Bah, sur le plateau, ils ont tous fait ouf.
Ah, mais c'est voilà.
Ah, c'était vrai. Il n'y a pas de trucage. Hold the laugh.
Moi, de manière générale, dans les films, je crois que je peux tout regarder. C'est plus les replays de sport et notamment de foot quand il y a des blessures. Ça m'est insupportable.
Ah ouais.
Quand il a eu son tibia cassé, je peux pas.
Ah, moi j'adore ça.
Le bras qui sort aussi.
J'ai regardé en boucle.
Ou tu sais, le nid de poule le danois, il y a 20 ans.
La rotule de côté.
Ouais. Oh là là.
Le nid de poule, je crois que c'était un truc.
Même là, je ne veux plus regarder. Daniel.
C'est fini, tu sais. Ouais,
mais... Daniel.
Ah, moi, c'est presque comme notre amie Mélodie, mais moi, c'est quand c'est un doudou qui traîne un enfant dans un couloir. Là, je me dis, c'est pas ça, un truc bizarre.
Non, et comment s'appelait le film
Ouh là là.
Ça, c'est un autre film.
The
Substance.
Ah ouais, incroyable.
Non, c'est pas quoi.
Ah si, si, si.
La peau,
c'est juste dégueu.
Mais oui, mais donc,
j'ai pas vu la plus-value.
Il y a deux, trois scènes où j'ai tourné la tête, j'ai dit non, j'ai pas.
Et ben, des ongles, tu sais, des ongles pourris.
Au son, tu dis ok, là c'est fini.
Oh là, dans Brendan, il y a du plus partout.
Oui, remarque, j'ai pas regardé tous les plans.
Tu as ce son un peu. Ils sont en train d'ouvrir le corps et ça fait.
Allez, yes.
Ah, il est tellement content. Ouais. Là.
Il a fait deux fois.
Et puis il ajoute une imitation à sa panoplie parce qu'il sait faire le beurre qui fond dans la poêle, pardon.
Ah, c'est vrai que c'est bien.
Ah, mais moins convaincu, je t'avais. Bon. Et puis, Yves Montand.
Alors, cette série.
Chérine, qu'est-ce qui vous fait peur au cinéma ?
Eh ben, moi, c'est ce qu'on voit pas. Mais du coup, c'est vachement le son, en fait. C'est les trucs où on sent qu'il y a quelque chose qui va arriver.
C'est l'équipe derrière la caméra. C'est ça qui vous
fait. Non, comme dans Paranormal Activity. Ça, ça m'avait terrorisé.
Bien sûr. Quand la caméra, elle tourne, il n'y a rien, et elle retourne, il y a quelque chose.
Il se passe des choses, les draps se soulèvent et tout. Je trouve ça horrible.
Arthur, j'ai vu. Qu'est-ce que...
Oui. Qu'est-ce qui vous fait peur?
C'est le pire jeudi ever.
Moi, c'est dans Conjuring, par exemple, il y a la scène avec le meuble là, qu'on appelle ça, l'armoire là comme ça. Oh, voilà. Et où derrière,
ça va être long aujourd'hui.
Ouais. En meuble, je suis très mauvais. Et du coup,
je suis suédois.
Voilà, je suis suédois. Je travaille pour une marque. Et c'est ce qu'on ne voit pas pour rejoindre ce que tu dis, et on sait très bien que quand elle va ouvrir, il y aura plein de petites choses qui vont faire comme ça. On ne sait pas ce qu'il y a derrière.
Ça vous le fait hyper bien, par contre.
Ça m'angoisse.
Mais quand on joue une scène qui fait peur, est-ce qu'on a peur?
Alors moi, je n'ai jamais.
Je n'ai jamais peur.
Si, moi, j'ai fait une scène où je devais faire peur dans un... parce que là, dans notre série. On n'a pas vraiment de scène où on a peur.
Oui,
souvent,
normalité.
C'est les autres qui ont un peu
c'est
peur.
Ça, ouais.
Mais en tout cas, dans un film, j'ai pu faire une scène où je faisais très, très peur et il fallait vivre cette ambiance-là, y participer en étant le méchant, quoi. Et oui, c'était...
J'ai zappé Olaf, pardon.
Non, c'est pas
Je suis sali.
Cette soirée au bar a vraiment duré longtemps. Ouais.
Moi je veux revenir le bruit du beurre qu'ils font alors, pour te faire pardonner.
Maggie, tu rends la bouteille.
Chérine Boutella et Arthur Dupont sont nos invités. Et voici Hold Laf, votre plus grand fan.
Je suis fan de Chirine Boutella, le plus beau rayon de soleil du cinéma. Vous êtes française, algérienne, autrichienne, moi j'en doute fort. On peut si bien que Bernard Lavillier qui ait autant de passeports. Je suis fan d'Arthur Dupont, un ancien sale gosse, aujourd'hui un acteur si bon. Surtout au cinéma, les séries, la télévision, pas trop le théâtre, c'est sûr, pas Dupont d'Avignon. Et vous êtes là ensemble pour la famille Rose, une famille rose malade. Dit du foie qui se nécrose. C'est pas quand tu manges trop de viande humaine, non, non. C'est quand tu manges entier une carotte, un oignon. Un après-midi d'automne, on partait en famille tous les quatre dans le camion. Alors on est passé par la cambrousse, on avait le ventre vide, donc un petit homicide. C'était le bon moment pour aller bouffer des gens mignons. Mange les doigts. Mange le foie. C'est le chant du pistolet de la famille qui ajoute des épices et propose des mollets en dégustation. Oh, goûtez-la. Oh, goûtez-la. Allez, chante ce morceau qui frémit. Oh, qu'on coupe avec les lames qui prouvent que les cannibales sont des gourmets. Oh, au fond. Arthur Dupont, pom pom, Boutella Dupont, Dupont, pom. Arthur Dupont, pom pom, Boutella Dupont, pom pom. Il cuisine trop bien les oreilles et les poumons, l'air du les coudes, le cœur, les joues, mais pas trop les champignons. Ah, je suis fan de vous après avoir vu la série. Nagui va moins nous engueuler quand on mange un rôti. Vous êtes nos invités, on vous fera pas de mal. Bienvenue à vous avec la bande originale.
Tu vas faire pleurer. Tu vas les faire pleurer.
D'accord, je pense que je l'aime pas. Je regrette presque.
Non, faut reconnaître.
Alors, ils ont de la chance.
Je t'ai pas demandé ce qui t'aime pas au cinéma.
Et si vous habitez Fouillouze.
Mais surtout, qui êtes-vous si vous habitez Fouillouze?
Vous me reconnaîtrez, j'imagine.
Toi qui habites Fouillouze.
Toi qui habites Fouillouze.
La Fouillouze.
Ah, la Fouillouze, d'accord.
C'est où?
C'est
où?
C'est de Saint-Etienne. C'est nord-ouest de Saint-Etienne.
Non, ça a été annulé, la Fouillouze. On n'a plus le droit. Enfin bref, ce sera samedi pour Opération Redzel.
Bravo, Dani.
À partir de la semaine prochaine, du 21 octobre pour être précis, sur OCS, cette série, La Famille Rose, série de genre, c'est suffisamment rare pour être souligné. Ils sont cannibales. Il n'y a pas de suspense de ce côté-là.
Il y a zéro doute. Ils sont cannibales.
Il y a zéro doute. Et ils n'y peuvent rien. C'est-à-dire que c'est plus fort qu'eux. Ils ont besoin pour survivre. Ouais. De se nourrir
meurt, sinon, ouais.
en mangeant, en chassant et en tuant. des êtres.
Ils sont obligés de chasser parce qu'il n'y a pas de magasin de viande humaine. Donc, du coup, ils sont forcément obligés de chasser. Et puis, ils ont des règles.
Oui, règles de conduite. C'est encadré, tout ça.
Parce qu'ils ont des enfants, donc il faut, voilà, il faut que tout soit cadré, et pour pas qu'on, qu'on se ressente comme des sauvages, comme des, comme des, comme des monstres, quoi.
Il y a une tension au sein du couple, entre vous deux, que l'on découvre, que l'on découvre au fur et à mesure, parce que,
Il faut dire qu'elle fait tout, quoi.
L'un des deux.
Ça suffit.
Elle a pu tenir 10 minutes, quoi.
Je sais plus à quel moment on le découvre, mais l'un des deux devient cannibale à cause de l'autre. Voilà, on va pas préciser.
Non, ça, c'est la saison 3, ça.
Non.
Mais d'ailleurs, on sait pas vraiment, d'ailleurs, ce qui fait que.
Tout est.
Il y a un doute.
C'est vrai.
Même nous, on ne sait pas. Ouais. Pour te dire.
Comment on devient cannibale?
Non, tu mens.
Bon, on sait un peu. Dis-moi, s'il te plaît.
Et vous êtes totalement crédible en chasseuse de proies. Non, mais c'est vrai. Dans la dégaine, dans comment on travaille d'ailleurs ce genre de rôle, parce que c'est pas un truc qu'on apprend au conservatoire en se disant vous êtes une prédatrice. Ouais, je sais pas.
Vous avez regardé. On a beaucoup bossé avec le Real, avec Enzo. On a vraiment défini le personnage. Et moi, ça me semblait, enfin vraiment, pour moi, c'était comment se tiendrait quelqu'un qui gère la famille, qui chasse, qui tue, qui a pas peur, qui a un sang-froid de ouf et qui en fait. La survie de sa famille dépend d'elle.
Ouais, c'est ça.
Féminine, juste, j'ai jamais cherché à avoir cette féminité.
D'accord.
En tout cas, c'était pas du tout un sujet. Au contraire, en fait, c'est ce qu'on s'est dit, c'est qu'en fait, même leur façon de vivre, leur contexte de vie ne leur permet pas d'avoir ces petits chichis d'aller chez le coiffeur, d'aller. Enfin, pour moi, il y a pas. Enfin, même si je sais pas que c'est la féminité. ce que je veux dire, c'est le moindre de ses soucis, quoi.
Sentez-vous libre, on va pas juger.
Et puis, elle s'appelle Diane, c'est une chasseresse, elle a ça dans son prénom déjà. On sait que c'est elle.
Donc c'était vraiment.
L'adolescente s'appelle Lou.
Et l'inversion des rôles, c'est-à-dire que c'est elle qui chasse, c'est elle qui traque, c'est elle qui tue, non pas avec plaisir, mais qu'il fait plus volontiers, et lui, il cuisine. Donc on est vraiment sur l'inversion.
Les accessoires étaient bien aussi. Le matador, une fois que tu as mis le matador, je peux te dire que tu te sens vraiment.
Le matador, c'est quoi?
C'est l'objet pour tuer, là. Ouais. C'est ce qu'on a dans les abattoirs, tu sais. Tu mets une cartouche et c'est à air comprimé.
D'ailleurs, c'est le même que Javier Bardem dans...
Exactement.
Ouais, c'est ça. Absolument. Dans le film
des frères. Ouais. C'est une famille ordinaire qui a besoin de se nourrir, mais tout vient d'un problème, d'un accident, qui a été fait d'ailleurs pour éviter de tuer quelqu'un. Parce que il y a eu un geste au volant, et l'espèce de camping-car, en tout cas, s'est fait totalement défoncé par un poteau, et tout va venir de là, c'est-à-dire la dépanneuse, le village dans lequel vous débarquez, les alentours, le voisinage, le regard des autres. Comment passer inaperçu quand on est en marge?
Et la gendarmerie.
Elle est géniale, la gendarmerie. Ouais.
Lou Adriana Bouziwan, qui est une super actrice, qui joue le Major Pilar. Elle est d'une...
Qui est la seule de la gendarmerie.
C'est parce qu'on est dans
un gendarme.
Tu sens que le désert, désert institutionnel français, là, il est un peu mis en valeur aussi. Vraiment, la gendarmerie, elle est vide, elle est toute seule et elle se démerde comme un peu.
Elle est sur le point de fermer aussi.
Elle est sur le point de fermer parce que les seuls problèmes, c'est des disparitions d'animaux, ce qui a quand même un lien aussi dans le scénario et qui est intéressant justement, qui vient se mêler.
Il y a des meurtres en série d'animaux.
Ouais.
Et donc
des disparitions. C'est pas des meurtres, c'est des disparitions. En fait, exactement, on les retrouve.
Des vols.
C'est des vols d'animaux.
Des poules, des chèvres, des chiens.
Des poules, exactement. Et ça paraît un peu anecdotique comme ça. Elle appelle son supérieur, il dit mais qu'est-ce qu'on s'en fout de ça. De toute façon, ça va fermer cette gendarmerie, donc on s'en fout un peu.
Et puis il y a la découverte de son cannibalisme par la jeune fille. C'est tout ce processus.
Non, pas la découverte, c'est-à-dire qu'elle devient majeure, elle va pouvoir tuer
son chasse.
C'est la chasse.
Elle a hâte de se mettre. Et elle demande quand je vais pouvoir chasser.
Nous, on s'est mis d'accord entre parents.
Comme un papa le dit pour un portable, ou une maman dit, bah écoute, à 16 ans, tu auras ton portable. Là, elle attend le jour de ses 16 ans, le droit de tuer. De chasser.
Sauf qu'on dit ça à un moment donné, puis on oublie que ça va arriver. Enfin, le père, il dit, ouais, c'est loin, 16 ans, c'est loin. Ouais. Puis à un moment donné, ça arrive, et là...
Et maman est très fière.
Maman est très contente.
Comment vous avez réagi quand vous avez lu le script la première fois?
Ah, moi j'étais toute excitée, je me disais mon Dieu, ça va être fantastique à jouer. Ouais. Que ce soit pour l'histoire en elle-même, le genre et puis les personnages, quoi. Les personnages sont hyper complexes tous. Enfin, il y a vraiment beaucoup d'enjeux, il y a plusieurs enjeux dans cette histoire-là. Parce c'est un thriller, pas... c'est ouais, la famille.
Il ne faut pas s'arrêter au cannibalisme, c'est une
intrigue.
C'est
vraiment un détail. Hein.
C'est ça.
C'est une famille avec des problèmes de famille.
De famille.
Crise d'ado, crise de couple,
d'intégration.
Exactement. Ouais.
Et alors, il y a deux manières de le regarder. Soit on finit par rire. Moi, il y a eu des moments, il y a eu des scènes quand même de cannibalisme où je me suis marré en disant bon, faut arrêter d'être choqué, faut arrêter d'avoir peur.
Faut autant, s'en amuser.
Autant rire. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais. Ça devenait un code. Toi, t'es pas d'accord?
Je sais pas.
T'as pas ri?
Moi, j'ai toujours un peu les chocottes dès qu'il y a un peu de chair humaine. Donc,
J'avoue, c'est un peu compliqué à regarder parfois, mais, ouais. Mais je pense que c'est aussi le but un peu de désamorcer le truc et que ce soit pas juste gore. Flippant, quoi. Moi, je trouve que c'est hyper drôle, quoi.
Non, mais il y a l'histoire de la
légèreté,
famille.
Ça s'équilibre hyper bien.
Et puis, il y a l'enquête. Donc, ça, c'est génial. L'enquête.
Et c'est surtout super bien joué. Vraiment.
Il y a le côté gore, mais avec la côté, l'attention pour préparer la cuisine, pour faire des bons petits plats. C'est ça qui est très
gore. Moi, c'est ça qui m'a. Moi, c'est ça qui, à la lecture, m'a fait.
Et l'annonce des plats.
Ah, bien sûr. Il y a un menu. Moi, ce qui vraiment m'a réjoui à la lecture, c'est que c'est une série de gens. Les mecs, ils bouffent des gens. On sait que ça va être potentiellement gore avec tous les SFX par Accurate Dream qui est une boîte qui fait ça et qui en fait un boulot de dingue vraiment. Mais moi, ce que j'aimais, c'est le contraste avec, c'est une famille normale avec un père qui aime faire la cuisine pour ses gamins parce qu'il aime le goût des choses, il aime prendre le temps de transformer, il aime le rituel de se poser à table, d'annoncer attention, rognon calvados d'allemand par exemple, tu vois. Après, on discute mais comme on discute à table d'une à t'as pris de la cimentale, putain, ce que j'aime dans la cimentale, c'est parce que c'est un peu gras. Moi, j'aime, tu vois. Et là, ça va être pareil sur de la chair humaine mais avec la même vision gastronomique. Et ce qui était intéressant pour moi, c'est le contraste, en tout cas la complémentarité entre sa femme qui elle chasse, qui est dans la méthodologie, etc. Enfin,
pragmatique, qui cuisine très mal.
Exactement. Pragmatique, qui cuisine très mal.
Les deux sont dans la précision.
Et nous, on est dans la précision, exactement. Ouais. Et tout ça, on fait. C'est comme deux piliers comme ça, avec au milieu nos deux enfants qu'on veut éduquer le mieux possible.
On appelle ça le vivre ensemble.
Absolument.
Mais des enfants,
et la famille.
Non,
mais c'est la famille, quoi.
Mais des enfants. Il y a un côté aussi où tu réunis la famille, tu apportes. Enfin, le personnage apporte beaucoup de douceur, d'amour, c'est le moment vraiment où on se retrouve tous et à chaque fois on est joyeux quand on est autour de la table.
Et des enfants atypiques quand même.
Oui.
Des enfants atypiques.
Assez.
Ah oui.
Je sais pas ce qu'on a le droit de raconter.
Ah non plus, on se regarde.
Lou, il va falloir que quelqu'un.
Lou, elle a 16 ans. Lou, elle a 16 ans, elle vit le passage à l'adolescence et avec sûrement les rencontres amoureuses.
Elle a même 13 ans au début.
Elle a 13 ans au début, ouais. Même
en plus,
ouais,
moins.
7 ans au tout début.
7 ou 9.
Elle est toute petite, c'est 7 ans de moins, je crois.
Ouais. C'est
7 ans plus tard.
Exactement. Et après, donc.
Il y a pas mal d'allers-retours.
Il y a une ellipse et on se retrouve où elle a 16 ans. Ouais. Donc, son premier couteau, l'ouverture à la chasse. Moi, ça m'emmerde. Elle est ravie.
Les premières fois, hein.
Et c'est toutes les premières fois,
ouais. Normal.
Et puis un petit garçon.
Ouais.
Noé.
Et qui, lui, ne mange. Et lui, on lui fait pas manger de viande parce qu'on lui a dit que voilà, on dit c'est un certain âge qu'on peut commencer à manger de la viande. Donc pour l'instant, il mange des légumes.
Et personne ne dit pourquoi.
Non, mais parce que c'est une règle.
Oui, voilà, très bien.
On y projette ce qu'on veut.
Par Enzo Croisier, cette série est sur OCS à partir de la semaine prochaine. On en parle jusqu'à midi et demi. Voici Lisa Delmoitié. Vous n'auriez pas fait une série comme ça, vous, sur les cannibales?
Écoutez.
Quoi?
Officiellement, le cannibalisme, je me dois de le dire, c'est non. C'est mal.
Je suis choqué.
Engagé.
Ceci étant dit, on arrive clairement à la limite niveau production de viande, mais on a du mal à s'arrêter. Alors, pas tous les humains. Hashtag not all men. Mais personnellement, j'ai un fait pour la viande grasse. L'entrecôte, c'est ma vie. Donc je mentirais si je disais que je n'ai jamais envisagé de manger un Américain. Hein? Désolé, mais vu le bordel qu'il fout sur la planète, est-ce qu'on les boufferait pas tous une fois pour toutes, puis on revient à du bon sens, hein? Je déconne, bien sûr, je ne ferai jamais ça, c'est mal. En plus, j'adore les Américains. C'est à eux qu'on doit Paul Thomas Anderson, Patty Smith et les gaufres au poulet. Mais quel peuple quand même, hein? Du maple syrup sur de la cuisse de poulet. Mais le sky is the limit, quoi. Après, vous mangez... Ouais, je... Après, vous mangez... Après, vous... On parlera après, parce que c'est un délire. Après, vous mangez la nationalité que vous voulez. Hein. Je ne suis pas là pour juger, mais imaginez si un jour, on y va. On traverse le Rubicon. Ouais. J'explique pour Aldelaf qui ne connaît pas ce mot. Le Rubicon, c'est une pierre précieuse complètement débile.
C'est pas un truc avec des cubes qui
c'est autre chose. Et on se dit donc, enfin, tu sais quoi ? Arrêtons avec ce tabou, mangeons-nous. Connaissant les tendances racistes de l'humain, d'office qu'on aura nos préférences niveau nationalité. Hein. Il y a bien des gens qui mangent du bœuf argentin, d'autres du steak wagyu. C'est japonais. En gros, c'est un bœuf qui se bourre la gueule au karaoké après une dure journée. Bon. Évidemment, on est en France, donc t'as d'office des gens qui voudront manger que de l'humain français. C'est du gigot français, monsieur. Eh oui, c'est le cul de Daniel, pour être précis. Voilà. Désolé, Nagui, je mange pas d'arabe, je déteste le cumin. T'auras des dialogues comme dans Pulp Fiction. Hein. Tu sais quoi ils mangent de l'humain aux Pays-Bas ? La mayonnaise. Ah, c'est dégueulasse. Ouais, ils te mettent une tranche de gouda, une tranche de Yann Van de Groot, une tranche de gouda, une deuxième tranche de Yann Van de Groot. Et ils appellent pas ça le Quarter Pounder with Cheese, ça n'aurait pas de sens avec le système métrique. Ils appellent ça le Royal Yann Van de Groot. N'importe quoi. J'avoue, moi, bon, j'aime la viande, hein, j'aime la chair fraîche, mais je suis toujours en conflit éthique avec moi-même. J'ai été plusieurs fois végane, et puis ça lâche toujours, alors j'essaie de me renseigner. J'ai même un boucher trop mignon qui m'a proposé d'organiser une excursion dans la ferme où il s'apprivoise. Oui, il m'apprivoise. Non, c'est pas possible. Mais pour voir les conditions de vie des animaux. Et c'est soit une excursion trop mignonne, soit le début d'un film d'horreur, quand même. Elle part seule visiter un abattoir avec son boucher. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Mais bon, là, ça fait un petit temps que je suis payée chez mon boucher, parce que vu le prix de la viande, cette année, j'ai dû choisir. Soit je mange une entrecôte, soit je m'achète un manteau pour l'hiver. Ouais. Faudrait que je récupère la peau de vache, en fait. Mais je parle pas de ma belle-mère. J'ai pas de belle-mère, mais j'ai toujours eu envie de dire ça. J'ai l'impression qu'il faut les détester. Soit dit, mon boucher m'a expliqué que dans certaines fermes, tu en dis trop, Leïla.
Pas du tout. Non, attendez.
Attendez. Je te mettrais bien dans de la sauce en parlant de. Cela dit, mon boucher m'a expliqué que dans des fermes, ils passent de la musique, surtout pour les cochons, qui sont des animaux particulièrement stressés. Tu m'étonnes qu'ils sont stressés, les porcins, ils ont la queue en tire-bouchon. Quand je vois l'angoisse que les mecs se font rien que pour la taille de leur queue, imagine l'angoisse s'ils se mettaient à bander en spirale, quoi. Il me dit aussi qu'ils mettent les cochons sur des matelas d'eau pour les détendre, ouais. Éviter qu'ils se marchent dessus. Et peut-être c'est vrai, peut-être que mon boucher me raconte n'importe quoi pour que j'achète ces rognons et que je ferme ma gueule. Ouais, Lisa, en fait, les cochons, on les masse à l'huile chaude et on leur fait fumer du CBD. Mais non, bien sûr, d'où tu crois qu'il vient le goût fumé du bacon? Après, tout ce que je dis, c'est que peut-être la façon la plus éthique de manger de la viande, c'est de manger la viande qu'il mérite. Alors l'humain, pourquoi pas, hein. Certains mangent halal, cachet ou encore vegan. Moi, par souci éthique, je m'engage à manger que connard. Voilà. Donc dès maintenant, quand je vais chez le boucher, je lui dis, mettez-moi un morceau de jarret, mais de votre bœuf le plus misogyne, quoi. Et voilà. Il manque pas de pièces, en plus. Merci.
Gisèle Moitier,
Romantada, son spectacle.
Sur francetv.fr.
Famille Rose, à partir de la semaine prochaine, 6 épisodes de 42 minutes sur OCS.
C'est un super générique.
Ouais. Chapelier fou, la musique.
Oui, j'adore la musique.
C'est très fort, gars.
J'adore.
Il a fait, un ciné-concert sur Le Roi et l'Oiseau il n'y a pas longtemps.
Ouais.
Et c'est incroyable parce que c'est un mélange électro, mais en reprenant vraiment toutes les mélodies. Ouais. Il y a des vraies cordes sur scène. Enfin, c'est un vrai mélange génial.
Alors, ce que j'aime, c'est les titres qui vont avec. Par exemple, là, on est dans une vie paisible. Tranquille. Attention, voici le repas raté. Très bien.
Ouais, quand on foire un plat, c'est ça qu'il faut avoir là.
Il y a la musique qui s'appelle Indigeste. Et la dent dure. Sincèrement, vous avez pu remanger un carpaccio ou un tartare après la série ou pas?
Mais même à la cantoche, hein.
Reprise.
Ah ouais. Oui, franchement, ouais. Sans questionnement.
Après, nous, on n'a pas eu le pire, hein.
Nous, on n'a pas eu le pire, je trouve. En tout
c'est
cas,
Capucine Valmary, celle qui joue Lou.
Oui, oui, oui. L'adolescente.
Enfin, tu vois, là, bon, toi, tu cuisines, j'avoue. Bon, voilà,
c'est
tu,
cuit.
Tu manipules une jambe, enfin, une demi-jambe et tout. Bon, ça passe. Moi, je chasse. Donc, en soi, il n'y a pas ce rapport-là à la viande vraiment de manipulation.
Non, il extrait quand même.
Des gens dans la réalité.
Oui, voilà, ça, c'est pas l'habitude.
Non, mais le personnage d'Arthur extrait quand même sur le premier écran dans la cuisine un. Je sais pas ce que c'est, le foie.
Oui, oui, alors ça... j'extrais un foie d'un gros monsieur, sûrement misogyne, qui a un goût incroyable.
C'est vrai, ouais.
Ouais, et
après, vous le recollez.
Et après, je recolle, alors ça, ouais.
Non, mais c'est drôle.
Ouais, c'est vrai, ouais.
C'est, vrai,
ouais,
c'est
ouais,
vraiment ouais. drôle. Il y a beaucoup de scènes drôles, et même la manière dont Lou Adriana Bouzuan joue, elle est drôle parce ouais, qu'elle est gendarme, elle a un regard un peu ouais. décalé, ouais. on se demande ouais. ce qui se passe dans sa tête.
Elle mange tout le temps, je sais pas si t'as remarqué.
Oui, ah
bah si. Dans la série, à chaque fois qu'on la voit, elle mange.
Grignote.
Le premier plan, il est génial ce premier plan, elle sort de la bagnole, on a un plan que sur la pomme,
ouais.
dans sa main, elle fait comme ça et on la suit.
Ouais. Ouais.
On est donc vraiment au niveau taille, on voit que la pomme et après on remonte sur son visage et tout le long de la série, elle grignote des trucs, ouais. une tarte, un machin, elle goûte nos plats à un moment donné.
Ouais. Elle bref. Sent la viande, elle
non, mais...
sent la viande.
Non mais,
oh, mais raconte toute la série.
C'est pas toute la
et
série.
À la fin, c'est et à la fin.
Non mais c'est des détails comme ça.
Et à la fin.
Non mais ça.
Après on se demande si elle va pas devenir elle aussi.
Peut-être. Non mais ça va.
Parce qu'on ne sait pas comment on devient un cannibale. Ça on ne le sait pas. Par contre le vrai truc, c'est que la panne de ce camping-car, de ce bus, je sais pas
bus
comment
aménagé,
le,
ouais.
Ouais, ça, ce bus ouais. aménagé, vous fait tomber dans un piège. C'est-à-dire le piège d'être stable au même endroit.
Ouais,
ce qui, voilà, ce qui vous sauve, c'est de passer d'une ville à l'autre et d'être en fuite permanente. Parce que on ne le dit pas non plus, mais le passé ou le passif de ce couple, on le comprend au fur et à mesure de la série. Ce qui est fort aussi, c'est que chaque épisode démarre non pas par un dans les épisodes non. précédents, mais qu'est-ce qui s'est passé il y a 7 ans,
ouais.
il y a 17
flashback.
Ans, ouais, par des flashbacks très réussis au niveau du look.
Ouais.
Très réussi,
ouais.
Super bien réalisé, et on comprend mieux finalement la fuite de ce couple et la manière dont ils veulent éviter en fait le passé, leur ouais. famille précédente aussi.
Et aussi pourquoi ils sont dans ces rapports-là entre eux.
Ouais.
Aussi on comprend un petit peu plus pourquoi, parce qu'on se dit ah ouais d'accord, il y a tout ce passif-là qui traîne et cette obligation entre guillemets de rester ensemble parce qu'ils sont parmi des humains, ils sont obligés, enfin ils connaissent pas d'autres cannibales,
ah oui.
c'est les seuls donc ils...
Oui mais ils les cherchent pas. Et non puis... plus ils sont pas en quête ouais. d'autres cannibales. Non, mais.
Mais je pense qu'ils ne se
c'est
disent
compliqué.
Même pas.
C'est compliqué de faire un avis de recherche.
Que peut-être il y en a d'autres
cannibales.
Ils peuvent faire
des groupes.
Ils sont en fuite.
C'est ça, bah, c'est un truc de survie. De
ouais,
toute façon, vu qu'ils sont obligés de laisser des cadavres derrière eux, vu qu'ils doivent se nourrir ouais. à chaque fois, t'es obligé ouais. de partir parce qu'il faut pas laisser de traces. Ouais. Et donc, je pense qu'ils sont un truc, effectivement, où en fait, tu vis toujours demain. T'anticipes toujours.
Soit vous le voyez comme une comédie, soit vous le voyez comme une série d'horreur. En tout cas, c'est une série de genre. C'est réussi, c'est super bien. Réalisé et interprété, Chérine
de...
Boutella, Arthur Dupont, Capucine Valmary, Lou Adriana Bouzian, pardon,
yes.
Gaspard Meyer, Romane Boringer, ouais. on l'a pas cité ouais. aussi, ouais. qui a un rôle clé dans cette série, Victor Bonnel, Aurélie Garraud, Sacha Moyer,
Dominique Pinon
qui fait une apparition,
à la fin.
Ouais, qui ouvre vers une
ouais.
seconde saison.
Ouais. Donc il y aura une saison 2, elle est tournée.
Un petit featuring.
Non mais on croise les doigts quand même.
Peut-être un gros featuring pour la deuxième saison.
Ouais. Arrête.
Mais peut-être.
Mais
oui.
Arrête. Mais
bah, j'espère qu'on ne fait pas ça, venir c'est... Dominique Pinon pour rien. Donc il va forcément avoir un gros rôle dans la saison 2.
On verra.
Non, je tiens à préciser parce que...
Il y a un petit détail peut-être que vous n'avez pas remarqué.
Au tout début...
Si, bah si. Pardon.
Bah si.
Si on a remarqué. On regarde
quand même. Jean, non, c'était pour voir
mais
si on avait vu.
C'est pas parce qu'on ne voit pas les choses. Hein.
J'ai pas vu que...
Je voulais juste préciser que c'est pas parce qu'on est végétarien qu'on va avoir du mal avec la série. Voilà, ouais. C'est important. Ouais. Tout le monde peut la voir, se marrer.
C'est pas sérieux de dire
être
ça.
Être choqué. C'est ce qu'elle a dit.
Personne n'y pensait.
Qui m'accuse
direct. C'est elle qui a dit.
Ouais. Oh, végétarien, vous avez vu ça? Vous avez supporté ça? Oui. Je sais plus, c'est Arthur. Moi, je sais pas qui.
On va dire
c'est Arthur.
C'est
Arthur.
C'est moi, c'est moi.
Oui, exactement.
Voici Mélodie Fontaine.
Salut, Mélodie. mes loulous de Poméranie. Comment qu'ils vont mes crottes de pied. Ah, c'est votre Jandé, le voyant le plus fiable depuis Mediapart. Ah, ça y est, les feuilles, elles tombent comme mes dents. Les trottoirs, ils glissent comme mon rectum. Ça y est, c'est l'automne. Ah, je suis pas de vin, il revient tous les ans. Comme le téléthon et mon herpès. Allez. Je vous fais l'horoscope, mais avant, faut que je vous raconte, j'ai fait un rêve. Aya de Dream, dirait Malcolm X. J'ai rêvé que Nagui et Leila présentaient l'Eurovision. Jusque-là, bon. Alors, mais horreur, Nagui, qui avait picolé dans un bar la veille, pété un câble et confondait avec « N'oubliez pas les paroles ». Toutes les 20 secondes, il coupait la musique. Leila tentait de combler les silences en beuglant du Dalida. Comme possédé, le Nags introduisait une vachette, pas dans l'arène, hélas. Et changeait drastiquement le concept de l'émission. Fini l'Eurovision, place à l'Eurovision. Et c'est à ce moment que le rêve part en sucette. Je me suis retrouvé les quatre fers en l'air, le kimono sur la face et les roubignoles sur le menton. On aurait dit un breakdancer au salon du fist. J'ai pourri mes draps en satin. Si je chante le pipi, c'est pas vous, c'est moi. Hein. Gultine charge. Allez, bélier. Vous n'avez pas la langue dans votre poche, heureusement. Sinon, au bout de 3 semaines, elle serait râpeuse comme celle d'une chatte. Cancer. Vous suivez à la lettre l'expression « viser la lune ». Hélas, les métaphores, c'est pas votre truc. Prenez un bon avocat. Scorpion. Wow, vous croquez la vie à pleines dents. Vous avez le regard brillant et le corps tout plein de protéines. On dirait que vous avez mangé du lion. Lion, restez à l'écart des scorpions. Capricorne. Vous créez une faille temporelle pour voyager dans le passé. Ne rentrez pas là-dedans, c'est Bruno Retailleau. Poisson. Vous vous découvrez une conscience écologique. Le site Temu propose un super trieur de déchets. Allez voir, c'est super. Sagittaire. Passion vélo. Attention de bien se poudrer les galettes avant de pousser les pédales. Hein. Ça, c'est pour votre trou loulou, parce que moi, j'ai déjà fait 100 bornes sans moixer les michettes. J'ai cru que mes fesses allaient se décoller. Taureau, vous allez rejoindre une secte sympa qui met le plaisir charnel au-dessus de tout et où chaque membre doit combler le gourou. Contactez-moi pour l'inscription. Vierge, votre dos vous fait souffrir. Prenez-en soin comme si votre vie en dépendait, car votre vie en dépend. Balance, vous allez devenir très célèbre sur TikTok. Trouvez un vrai boulot, feignasse. Gémeaux, vous êtes appelé pour être chroniqueur dans la nouvelle émission de Laurent Ruquier. Non, 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 encore un coup à finir pédocriminel ou député. Passez votre tour. Verseau, vous suivez votre partenaire dans ses nouveaux délires. Hélas, vous n'avez pas de partenaire. Alors à qui appartient ce poivrier? Arrivederci les amis, à très vite, je le sens. Ah non, ça c'est l'odeur de pipi. Pardon.
Mélodie Fontaine sur scène, elle sera demain à Garges-lès-Gonesse le 30 octobre à Puy-Saint-Martin à Paris. Vendredi et samedi, c'est au Point Virgule pour son fantastique spectacle Poudrez-moi les galettes.
Magnifique.
La famille Rose, la semaine prochaine à partir du 21 sur OCS avec Chérine Boutella et Arthur Despons qui sont nos invités.
Dupont, pas Despons. Dupont.
Non, deux, il y en a deux.
Et nous allons recevoir tout à l'heure Amélie Viallet qui sera notre invitée et qui est paléanthropologue. Donc on parlera du cannibalisme. Est-ce que ça existe ou est-ce que c'est juste un mythe comme les vampires?
Est-ce que ça va revenir
tout à l'heure? La bande originale dans les années 90, Chérine, vous écoutiez?
Ah oui,
Didi.
Didi, quoi. Didi.
La naissance.
Oui, la naissance, pardon. J'étais sur un autre soleil.
Je vous avais prévenu.
L'album, il est tellement bien. Et puis Khaled, bon voilà. Année 90, voilà. Naissance de Chérine à Alger. Est-ce que vous pouvez nous décrire en quelques mots
comment c'est Alger,
l'ambiance familiale?
Vous l'écrivez comment
Alors c'est blanc, il y a des Arabes partout. C'est comment Alger?
Il y a beaucoup d'Arabes.
Est-ce qu'il y a des Français qui foutent la merde?
Bah, j'espère qu'ils sont repartis depuis le temps,
c'est ça.
Oh, sens de l'accueil.
À quoi ça?
Super. Oh, wow.
À quoi ressemblait la famille, en fait, si vous deviez décrire un peu père, mère? Dans quel contexte vous avez grandi?
J'ai grandi. Alors, votre chasse.
T'as pas honte, Daniel?
Elle est très bonne. Elle est très bonne. Elle est vraiment. Ouais.
À cette période-là, la musique me fait penser à ma. En fait, là, cette chanson-là, ma grand-mère me la mettait et j'ai des images de moi en train de danser. Devant la radio. Et sinon, je vivais à Oran à l'époque. Okay. Un père militaire et une maman qui avait décidé de rester à la maison et de s'occuper de ses enfants. Donc j'ai une enfance plutôt heureuse. Hein.
Ouais, ça sous-entend une éducation stricte?
Non, pas du tout.
Père militaire aussi.
Pauvre papa, désolé. Pas forcément présent parce que très pris par son travail. Mais une maman à l'inverse. Non, pas sévère.
Ancien pilote de chasse.
Absolument. Mais une maman très présente, beaucoup d'amour, donc un foyer plutôt plein d'amour, mais pas sévère, non. Donc un papa qu'on voyait un peu moins. Enfin, qui avait quand même un truc assez militaire dans sa façon de donner des ordres. Même pas, il faisait pas le lit à la maison. De gérer le foyer, quoi. C'était beaucoup, ouais. Je me rappelle, vraiment militaire, quoi. Ramène-moi ça, fais ci, fais ça.
Oui.
Et c'était un peu
factuel,
plus tard, quand j'ai grandi, un peu comme le personnage de Capucine, quoi, la petite crise d'ado, où en fait on s'affirme et puis on se dit, ah, c'est pas normal. Mais voilà, plutôt une enfance heureuse.
Arthur Dupont, vous écoutiez en 90.
Tic-tac, tic-tac, tac-tac, tic-tac, tic-tac.
Waouh, je n'ai pas la
réponse.
Bobby la pointe,
tic tac, tes cocu qu'attends-tu? Cuite toi tes cocu, tac 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 cuite et quitte ton quartier. Tac 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 quitte, tac tac tic et toc, tac tic tac et toc, tac tic tac qui
sur dur.
De ta toc et toc, ton tricot tout crotté et ta croûte au couteau qu'on attend t'attaquer. Contre un tac au côté, cadre et tout compté et quitte ton quartier. Tac tic tac quitte, tac tic tac quitte, tac tic tac quitte, tac tic tac quitte.
Vous voulez venir, n'oubliez pas les paroles.
T'as côté des catins, des catchis, t'as qui n'est un coquin.
Coupez la musique, hein. Coupez. On va parler des sales gosses.
Ouais.
C'est quoi les sales gosses?
Alors, juste pour cette chanson-là, je l'avais apprise dans un cours de théâtre avant de rentrer dans les sales gosses. Et c'est vraiment mon premier contact avec Bobby Lapointe. Et c'était un lien entre les mots, un peu la folie, la poésie, tout ça.
Et les exercices.
Les exercices de diction, le mec est fou. C'est très fort, Bobby Lapointe, et c'est très drôle et tout. Et après, donc, je suis rentré aux sales gosses, et les sales gosses, c'est une compagnie de théâtre professionnel d'enfants.
Génial.
Et Laura Domange, elle était, on était ensemble dans la même compagnie et dans le même spectacle. Et donc, voilà, c'était 3-4 ans de ma vie où on a joué à Bobino. On a fait une tournée aux États-Unis, on a fait plein de trucs et c'était c'est fantastique.
Ouais,
c'est
et vous avez mené une scolarité
sur les tocs. Ouais. Hein, prémonitoire sur les tocs.
Absolument, oui. Parce que je suis tiqué de ouf.
Ah oui,
c'est vrai. Pardon. Excuse-moi.
J'y ai cru, pardon.
Pas me chauffer parce que j'oublie après que j'ai des tocs. Mais quand on me le rappelle, c'est le bordel.
Mais quel genre de toc?
Non, mais j'ai des tics physiques et
oui,
trucs comme
aussi,
ça.
Mais
Non, mais c'est les yeux.
Oui, je cligne des yeux.
Il fait de la percue tout le temps.
Du coup, il y a beaucoup de.
De
quiproquo.
Ouais, je sais.
Tu vois, voilà.
C'est gênant.
Ouais, c'est vrai, mais je comprends.
Entre rendez-vous et plainte.
En 2007, Chérine, vous écoutiez. Que se passe-t-il dans la vie de Chérine Boutella à ce moment-là?
Vous quittez l'Algérie et vous venez à Paris pour suivre des études. Quelles études?
Eh ben, figure-toi que j'ai fait cinéma et audiovisuel.
Ah.
Ouais, j'ai arrêté au bout de...
deux heures.
Non, j'ai quand même eu ma licence. Je me suis dit, bon, allez, quand même, on justifie la présence en France. Mais en fait, je m'ennuyais vachement, quoi. C'est très théorique à la fac.
Ouais. Mais dans le but de faire quoi?
Particulier. J'étais perdue. Je me disais, bon, allez, on va faire des études parce qu'il faut. Et puis, voilà, donc j'ai eu ma licence et... Et voilà, et à cette époque aussi, je sortais, et c'est cette musique-là d'ailleurs, je sortais, les copains, la vie.
Comment s'est passée l'arrivée à Paris? Vous avez de la famille des,
ouais,
déjà?
J'ai une tante qui habitait là, donc oui, donc c'était assez simple. Mais comme je suis vraiment autrichienne, je suis vraiment, oui. C'était plus simple, entre guillemets, et du coup, ça s'est fait très vite. Quoi.
Pourquoi c'est plus simple d'être autrichienne?
Parce que je suis européenne, donc pour arriver en France, c'est plus simple pour les papiers.
L'accueil.
Absolument, voilà. le fameux.
Je connais si bien.
Le savoir.
Le retour, voilà. Le retour de...
Arthur Dubon, vous écoutiez.
Et ben alors
l'instru.
C'est Michel Petrucciani. C'est magnifique.
Un génie du piano, du jazz, avec cette version de Besame Mucho.
Ouais. En solo
qu'est-ce qu'elle évoque cette
moi ça évoque moi devant mon poste de radio là sur TSF avec j'avais un lecteur cassette, tu sais, où je pouvais enregistrer des trucs, et en fait j'étais tombé sur le début et j'attendais, je savais pas s'il allait trop passer, et donc j'ai mes rec, après je me le suis réécouté ce truc là et il y a un passage dans ce morceau où il monte une gamme, il la descend, et je savais pas ce que c'était, et comme je suis musicien, donc et je découvrais un petit peu le jazz et j'étais là en me disant mais attends qu'est-ce qu'il fait,
c'est comment il fait ou qu'est-ce qu'il fait,
c'est juste spectateur fou en disant ouais, c'est incroyablement très musical, parce que en fait c'est mélodique chez Petrucciani, on n'est pas là à se dire je comprends pas, je trouve qu'en tout cas même si on n'aime pas le jazz, si on se dit qu'on n'aime pas le jazz,
il y a des moments où il peut y avoir des harmonies, des notes bleues un peu
gênantes, très tendu, etc. Mais chez lui souvent je trouve que ça pourrait se chanter.
Absolument.
C'est ça qui est incroyable. Voilà.
Vous jouez de quel instrument?
Je suis pianiste et puis guitariste puis bassiste parce que finalement c'est pas loin. Et puis percussionniste.
Dès qu'il y a deux cordes qui sautent, ça devient basse.
Exactement. Et puis chant, voilà.
Toute la musique quoi.
Pas toute la musique, mais c'est quelque chose qui me
nourrit. Chérine Ali, oui.
Toujours jazz ou autre chose?
Moi j'écris des chansons et c'est plutôt pop groove, voilà, on va dire, mais qui prennent vraiment racine dans l'harmonie en tout cas. Dans un peu le jazz, un peu le rhythm and blues, un peu et Stevie Wonder, il y a du jazz partout,
carrément,
en fait, tu vois. Et Donia Toé, c'est du jazz aussi. Dès qu'il va se faire un petit solo de Wurlitzer,
même les arrangements que Quincy Jones avait
pour Michael Jackson. Si on commence à se dire tiens, c'est pas de la pop,
partout.
On écoute derrière, on dit putain, là le contre-champ derrière, il est méchant, donc. Voilà, j'étais très sensible à ça.
Et c'est votre premier rôle important au cinéma à cette époque-là, Chacun sa nuit, de Pascal Arnold et
Jean-Marc Barr.
Ouais. Vous avez aussi tourné dans la foule avec Romer. Il y a plein d'expériences comme ça mélangées. Si on parle de tourner avec Romer.
Ah bah, Romer, la rencontre avec Romer, c'est très étrange. C'est que je suis convié chez lui, à son bureau en fait. Et donc c'est un monsieur qui est déjà très très vieux. Et il me dit
lisez.
Je vais pas l'imiter pour moquer. Hein, c'est vraiment ce que j'ai.
Il avait la même voix que moi. C'est fou.
C'est fou. Hein.
C'est le père Foura aussi.
Voilà. Voilà. Donc je vais arrêter l'imitation. mais en tout cas, il me dit lisez. Donc je lis le texte qu'il m'était donné à lire.
Ouais,
merde, on le savait. J'en étais sûr. Moi, de toute façon, j'ai parlé avec des copains. Là, j'ai gagné 100 balles. Et du coup, il me disait lisez. Et je lisais. Il me dit je vais entendre les E finaux.
Waouh.
Ok. Donc je dis les E finaux. Il me dit très bien. Vous connaissez mon cinéma? Bah, pas beaucoup, venez avec moi. Je le suis en arrière-boutique, quoi. Là, il a un combi télécassette.
Non.
Je te jure, il met l'anglaise et le
duc. VHS.
Il met la VHS, il se pose à côté de moi comme ça. Il y a ce silence. Et il y a la cassette qui démarre et c'est le duc et l'anglaise. Et donc, il me met un quart d'heure, 20 minutes.
À côté.
C'est gênant. Et là, il me dit. C'est gênant. Et en même temps, je me dis, ce que tu vis là, mec, sois très attentif à ce qui se passe. Et pendant un quart d'heure, on discute. Et puis après, il m'a dit, bien, vous êtes pris. Comme ça, il serrait la main. Et puis, je suis parti. Et après, on a tourné. Donc, c'est une audition comme ça, j'en ai plus jamais vécu.
En 2015, Chérine Boutella, vous écoutiez. Ah non, c'est pas japonais. Non. C'est tout sauf japonais.
C'est de l'autruchien, t'as dit.
Mais racontez-nous ce que c'est.
Oui, alors en fait, c'est la musique d'une série avec laquelle en fait j'ai commencé à jouer, quoi. Pour moi, ma carrière a commencé à ce moment-là en Algérie.
La BO.
C'est la BO d'une série qui avait cartonné qui s'appelle Khawa. Et c'était en plus, ça a révolutionné la télé en Algérie, et surtout c'était une histoire de femmes. Et ça, je trouvais ça chambé pour la première fois, on voyait que des meufs. Chef d'entreprise, qui gérait la famille. Évidemment, c'est un drame familial autour de l'héritage. Mais c'est une série qui a cartonné, qui pour moi a vraiment lancé ma carrière et qui m'a permis d'avoir un casting pour Papicha et qui en fait a tout démarré. Ouais. Quoi.
Et à ce moment-là, vous quittez Paris pour aller à Vienne.
Ouais.
Pour apprendre l'allemand, puisque c'est une langue que votre mère ne vous a pas transmise.
Non, malheureusement. C'était un peu compliqué. En fait, elle voulait pas mettre de côté mon père, et mon père ne parle pas allemand. Donc, quand on allait chez ma grand-mère régulièrement, qui était à Alger d'ailleurs, qui me parlait en allemand, ça allait, mais on a perdu ça très vite. Puis j'avais ma sœur qui était là-bas. Et donc, j'avais aussi un besoin de recommencer, de vivre des nouvelles choses. Donc, j'ai suivi ma sœur en Autriche pendant 2 ans. Et c'est là où j'ai lancé ma chaîne YouTube. Donc, j'ai commencé à faire des tutos. Vraiment, j'étais partie des premières à le faire. On était 4 en Algérie, je crois, à le faire. Et j'ai eu un public algérien d'Algérienne, qui m'a beaucoup soutenue, qui a été très présent. Et en fait, on m'avait contactée en plus en parallèle parce qu'on m'a repérée sur YouTube, justement, grâce à ma chaîne. C'est une boîte, donc la boîte de prod qui a produit le Khawa, qui m'a dit, écoute, on a des projets qu'on aimerait faire l'année prochaine, on aimerait bien t'avoir avec nous. Et j'étais, en fait, à ce moment-là, je bossais dans un resto français qui avait fait faillite, donc il fermait. J'avais eu mon diplôme d'allemand, donc j'étais là, bon bah, on y retourne. Hein. Donc, 2 ans après, je suis retournée en Algérie et tout est parti de là.
Arthur Dupont, vous écoutiez Bobby McFerrin. Zéro instrument, que la voix.
Ah, il est trop fort.
Et au cinéma,
Jérôme Kerviel, l'Outsider, réalisé par Christophe Baratier. C'est quand même un personnage plus grand que nature déjà, Jérôme Kerviel. Mmh. Une histoire complètement folle. Est-ce que vous vous êtes demandé, j'imagine, dans quelle mesure le film était là pour raconter l'histoire, le réhabiliter, quel positionnement on adoptait face à un personnage quand même qui est en partie responsable d'une catastrophe financière dont lui dit que la responsabilité est quand même partagée. Mais
alors c'était l'adaptation de L'Engrenage, son bouquin à lui. Ouais. Donc on peut se dire que c'est son point de vue. Ouais. Donc ça décharge un peu. Et en vérité, Jérôme Kerviel, au début, il était conseiller technique. Enfin, il est venu dans les premiers jours sur le plateau parce que moi j'avais besoin de me nourrir de détails. On était dans l'open space là, vraiment de trader. Je disais, toi à ce moment-là, très concrètement, toi quand tu vois que ça chute, que ça va à la cave, comment tu réagis? Moi je m'énerve d'une manière, toi comment tu t'énerves? Juste pour choper un truc et sortir un peu de mes automatismes, on va dire. Et donc ça c'était le truc purement technique. Mais après, il a été pas évincé. On lui a demandé, c'est Christophe Baratier qui lui a demandé de ne pas venir parce que il fallait que ce soit un point de vue de réalisateur avec aussi d'autres éléments.
Ouais, une fiction,
une fiction et quelque chose sur l'enfermement, l'auto-enfermement, quelque chose où on se verrouille dans ses certitudes, et dans ses névroses, etc. Lui, à la fin, il me l'a vraiment dit, Jérôme, qu'il parlait, qu'il avait l'impression de parler au marché. Donc à partir de ce moment-là, c'est comme si là on a parlé, on a vraiment l'impression de parler à l'audience, quoi, en disant ouais là,
je sens que,
mais ça d'accord, mais tu vois, en tout cas les niveaux d'audience, savoir que voilà, on a vraiment un levier, et là c'est là où il était.
La famille Rose parle de cannibalisme et sera à l'antenne d'OCS à partir de la semaine prochaine. Bonjour et merci de venir à ce micro, Amélie Viallet, vous êtes paléanthropologue.
Merci
est-ce que ça existe ou est-ce que c'est un mythe comme les vampires?
Alors c'est complexe quand même, c'est-à-dire qu'en fait c'est un sujet qui est auréolé de tabous et qui est donc toujours étudié de façon, on va dire, un petit peu subjective. Donc c'est très clair que finalement on pourrait avoir l'impression que ça existe depuis la nuit des temps. Alors moi je suis aussi préhistorienne, je travaille sur le temps long, mes terrains se situent autour de 1 million d'années, etc. Ah ouais, et on a des choses très très claires sur ces périodes-là en termes de pratiques cannibales.
Il y en a eu.
D'êtres humains qui mangent d'autres.
Ah oui, complètement.
Il y a eu des épisodes.
Voilà. Mais si on revient un peu sur l'historique, en fait, chez les Grecs anciens, il y a déjà des termes. Alors, c'est pas tout à fait les mêmes qu'aujourd'hui. On parle d'homophagie. Mmh. On parle d'allélophagie. Allélophagie, c'est quand on consomme son voisin et pas quelqu'un de son groupe. Et puis, il faut attendre. Donc, ça veut dire qu'il y a au moins des faits.
Je connais ou je ne connais pas ce que je mange.
Ah oui, il y a ça. Voilà. C'est-à-dire, soit on mange son compère.
Un circuit court.
Ouais, il y a un circuit court et un circuit long. exactement.
Okay, l'entre-soi.
Voilà. Donc du coup, ces termes, ils ont un petit peu changé, mais ça veut dire que depuis voilà, les Grecs anciens, il y avait quand même sans doute des cas où, en tout cas, on a eu besoin de décrire et d'avoir des termes pour nommer ces concepts.
Vous dites que c'est tabou, ça veut dire qu'aujourd'hui, il pourrait y avoir encore des personnes qui
c'est complexe,
mangent
en fait,
leurs voisins.
Oui, c'est complexe à étudier pour tout un tas de raisons, vous imaginez bien, déjà pratiques, mais en plus parce que réellement, il y a une espèce de transgression. Par exemple, Françoise Héritier, elle parlait de l'équivalent d'un inceste alimentaire. Ouais. Voilà, donc c'est des termes très forts, en fait. Tout ce qui se joue là-dessous, c'est notre rapport à nous, les humains, avec les autres humains. C'est la considération de l'autre. Et puis, c'est surtout la frontière très ténue entre le sauvage, on va dire, entre guillemets, et le civilisé, entre guillemets, entre la nature et la culture. Et donc, il y a des transgressions comme ça qui se font l'un à l'autre. Je pense que ce qui se joue, c'est notre animalité, que finalement...
Mais il y a le cannibalisme de survie aussi, comme la...
On arrive à une typologie assez claire. Hein, et donc, nous, sur nos fossiles qui peuvent avoir, je vous disais, il y a une publication récente sur des fossiles en Afrique de l'Est à 1 045 000. Donc, on a les premiers humains, les premiers représentants du genre homo en Afrique à ce moment-là. Apparemment, ils consomment déjà de la chair humaine. Mais après, on a des sites très bien documentés, donc les sites d'Atapuerca en Espagne ou le site de Totavel en France, pas très loin de Perpignan, dans lequel moi, enfin, ce sont deux sites dans lesquels je travaille beaucoup. Et là, c'est très clair, parce qu'on a des restes humains. Il y a 150 restes humains, hein, ça veut dire fragments, parce que justement, ils ont été fracturés. Ce sont souvent des jeunes individus. Enfin, ça pose question, évidemment.
C'est meilleur.
Sans doute.
Comment tu sais, c'est un peu
ce que vous évoquez là, en plaisantant. Ça donne mieux. Mais ça aussi, je trouve que c'est un trait intéressant. C'est que je pense que peut-être la série, il faudrait savoir, mais elle est basée un peu là-dessus. C'est-à-dire que souvent, dans nos sociétés, et la nôtre en ce moment, qui est un peu quand même liberticide, qui est un petit peu sur la bien-pensance, etc., très contrôlé, et bien en fait, on retourne vers la préhistoire, on retourne vers des concepts qui sont très fantasmés, qui sont plus ou moins documentés, parce que ce sont des espaces de liberté. Et en fait, parler de cannibalisme, comme on le fait dans la série peut-être aussi, c'est une forme un peu d'exutoire, justement, de cette histoire de notre animalité qu'on a en nous, qu'on assume ou qu'on n'assume pas.
Mais c'est ce qu'on dit dans la création des monstres, en fait, on met dans les monstres tout ce qui nous a fait peur, qu'on a rencontré par le passé, et on crée dans cette coquille-là quelque chose qui à la fois nous met à distance mais nous rappelle qu'on y est passé. Donc les monstres des hommes, on en a plein.
Origine, Totavel, notre longue histoire avant Néandertal, vous l'avez signé en collaboration avec Emma Bowes.
Oui, qui est aussi la réalisatrice d'un documentaire qui porte à peu près le même nom.
Très bien, et le livre est publié aux éditions Albin Michel. Merci Amélie.
Merci.
Voici Emma Beaujean.
Alors, tous les jours dans cette émission, je rends un hommage et aujourd'hui, j'ai décidé de rendre hommage au stand-up. Merci beaucoup, c'est tout pour moi. C'était Emma Beaujean. Eh oui, le stand-up, quelle merveilleuse invention également. Mais moi, grâce au stand-up, je travaille avec mes problèmes. C'est-à-dire que je transforme mes problèmes en oseille. C'est incroyable, non? Alors, attention, enfin, quand je dis problème, je parle évidemment de mes petits problèmes du quotidien. Je parle pas des trucs que ma psy appelle un problème, qui n'en sont pas vraiment. Genre, par exemple, ce besoin irrépressible qu'on parle de moi. Tu vois, le fait d'être persuadé que tout le monde veut baiser, genre. Ou encore mon incapacité absolue à avoir un vrai travail. Genre, ça n'a rien à voir avec le stand-up. Hop de là, regarde pas mes seins, s'il te plaît, quand je te parle, mes seins. Le stand-up, c'est un moyen d'expression, surtout pour nous, les femmes. En fait, on branche un micro, on dit des trucs. Si c'est marrant, ça vous touche. Et si c'est pas marrant, vous nous traitez de grosses putes. Et vous dites que les femmes ne sont pas drôles. Voilà. Mais c'est vrai, quand on parle dans un micro face à un public, surtout si le public est attentif, on découvre assez vite qu'on peut pas dire que de la merde non plus. On le découvre assez dépend. Hein. Moi, la première fois que j'ai pris le micro, j'ai dit on en parle du poisson pané ou quoi, la team? Vous avez vu ce truc là? Ça ressemble pas du tout à un poisson, mais peut-être il est vraiment pané, genre. Après ça, un silence abyssal. J'ai entendu une mouche voler dans la pièce d'à côté, mais du coup j'ai fait ce que tout le monde fait dans ce cas-là. Merci beaucoup, vous étiez super, merci beaucoup. Voilà, c'était ça, la fin du sketch. Après ce triomphe, du coup je suis allée boire une bière, mais pas un demi. Putain, comment t'appelles ça déjà? Tu sais, le truc là, taille au-dessus du demi, un énorme tonneau. voilà. Et alors, ce qui marche fort en ce moment dans les comedy clubs, c'est de l'impro. Mais moi, c'est pas mon fort à la base. Nelson, mon fort. Alors ça, voilà, par exemple, c'était pas écrit dans le texte et c'est de la pure merde. Du coup, il faut que je m'entraîne. Alors, je me dis, vous allez être mon premier rang. Allez, impro. Par applaudissement, il y en a qui sont nés en Égypte ou quoi. T'es né en Égypte. Attends, mais t'es Nagui ou quoi? Ah ouais, t'es vraiment Nagui. Merde. Il est sympa le pharaon avec le nez là. Il est de profil ou de face sur les photos, on sait pas. Le nez qui a failli tomber comme le sphincter. Le sphinx, merde. Ok, pardon. Et toi, tu t'appelles comment
Moi, bah, Oldolaf.
Je t'ai demandé ton nom, pas ton personnage préféré d'Astérix et les Vikings. Applaudissement qui est en burn-out. Lisa applaudit. Applaudissement qui s'est déjà fait doigter à la cafette de Radio France. J'ai arrêté les comedy clubs parce que moi, sincèrement, je l'ai trop mal vécu. J'ai ni la bouche ni les épaules pour, mais je reste fan de mes collègues stand-uppers et surtout stand-uppeuses. Le plus génial, en vrai, dans le stand-up, c'est que chaque bar se transforme en comedy club. C'est-à-dire que tu marches dans la rue et tu passes du trottoir à la scène. C'est l'ultra-démocratisation de la parole, le stand-up. Tout le monde a son mot à dire. Et même si beaucoup d'artistes méprisent encore cet art qui, selon moi, est un des plus complets. Alors, cet hommage, en vrai, il est pour les rappeurs et les rappeuses du théâtre. Ceux qui n'abandonnent pas, et même devant trois personnes dans une cave, un mardi à 17h, c'est à vous que je rends hommage aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté.
Emma, bonjour.
Sur scène, Emma Beaujean, tous les vendredis à 21h au Théâtre des Mathurins pour son fantastique spectacle. Rendez-vous à la cafette.
Tanguy Passioro, de quoi vas-tu nous parler ?
Je vous parlais de Victoria Beckham, j'adore cette femme, on a les mêmes valeurs, la noirceur, les mots boudeuses, la thune.
Parfait. La famille Rose, c'est sur Ciné Plus OCS à partir de la semaine prochaine. Nos invités Chérine Boutella et Arthur Dupont sont avec nous jusqu'à minuit. Lisa Del Moitié, Emma Beaujean, Michel Fontaine, Olaf, Tanguy Passioro, Daniel Morin.
Coucou Mélodie.
Et nos invités, Chérine Boutella et Arthur Dupont.
Vincent Père, la bande originale. Léa Gabour et Nagui.
La famille Rose, Chérine Boutella, Arthur Dupont à l'affiche de cette série réalisée par Enzo Croisier. C'est à partir de la semaine prochaine sur OCS avec en toile de fond, parce qu'il ne faut pas s'arrêter, je pense, au cannibalisme. C'est simplement.
Non,
je t'en détaille. Non, mais c'est vrai que c'est un point de départ, mais c'est simplement, on peut voir aussi le prisme d'une famille pas forcément bien accueillie. Les gens du voyage, on ne les connaît pas, ils sont décalés par rapport aux autres. Le regard de ceux qui ont leurs habitudes, slash ceux qui ont une autre manière de vivre. Évidemment qu'on est dans, par moments dans l'horreur ou la comédie. On peut éclater de rire quand on voit quelqu'un se faire vider pour être mangé à table avec du cognac. Je sais plus quelles sont les recettes, mais enfin les noms de recettes que vous donnez sont assez drôles et réussis. On peut voir aussi la manière dont une adolescente jouée par Lou Adriana, qui s'appelle d'ailleurs Lou.
C'est
Capucine qui joue Lou, et il y a Lou Adriana Bouzioane qui joue la gendarme. Pardon.
Ne le jugez pas, il est fatigué.
Donc Capucine jouant Lou, la manière dont elle attend finalement de grandir, elle attend de devenir adulte et attend d'être comme maman, c'est-à-dire d'être Diane, la chasseresse, et elle aussi, de se demander comment elle va attaquer sa première proie. Et d'ailleurs, elle hésite et elle se demande si oui ou non elle va se jeter sur lui ou pas. Et ces moments de flottement là, on imagine qu'il se passe plein de trucs dans sa tête.
Ouais, ben en même temps, c'est une adolescente, donc on se dit qu'on pourrait transposer la première fois à tuer à la première fois à
amour.
Ah oui, c'est un désir.
C'est le vrai désir.
Ouais, c'est pulsion. Il y a ça en parallèle aussi. C'est là où on voit effectivement toutes les premières fois en même temps et elle a été formée pour ça. On comprend toute sa vie, elle a attendu ça en fait. Ouais. C'est son moment. Ouais.
Ça, c'est la musique de la famille Rose, donc à partir de la semaine prochaine sur OCS. Invité avec nous, Chérine et Arthur, jusqu'à midi et demi. Voici Tanguy Passioro.
fait déjà quelques années que j'ai Netflix et je trouve qu'au début, il y avait plein de séries super et c'est comme les dealers, ils t'appâtent et une fois que t'es accro, ils te fournissent, mais en qualité moindre. Maintenant, je vois plus que des séries que j'ai oubliées dans la minute. Il y en a même que j'oublie alors que je suis en train de les regarder. Je suis dans le canapé et je me dis, mais aucune idée de ce que je fous là. Alors, ok, c'est peut-être pas Netflix, c'est peut-être la dégénérescence neuronale, puisque j'ai l'âge de dire, quand j'entends une chronique d'Emma Beaujean, ah purée, elle percute la môme. Elle envoie du bois, comme on dit chez les castors. Bref, Netflix, je me suis lassé, mais l'autre jour, je l'ai quand même ouvert. Alors, j'arrive sur la page d'accueil qui est personnalisée. Moi qui suis plus ringard qu'un collier à dents de requin, comme proposition, j'avais Belphégor, l'inspecteur Morse et Rex, chien flic. J'étais parti pour lancer Rex parce que j'adore le concept du chien flic. Un des agents que tu payes en croquettes, bah déjà, ça soulage un budget. Sébastien Lecornu devrait y penser. Et même pour les pompiers, j'ai vu ce que faisaient les chiots de la patte patrouille. Je crois pas que ce soit des effets spéciaux. Hein. Et bah, deux caniches, ils t'éteignent un hôtel de ville, tu vois, qui prend feu. Puis soudain, sur Netflix, j'ai vu en haut de l'écran une vignette disant qu'il y avait un documentaire sur Victoria Beckham. Et moi, j'adore aller vers des trucs qui me sont étrangers. C'est pour ça que je regarde l'agence sur TMC. Je vois que des logements que je ne peux pas acheter. Même la cabane de jardin d'une villa présentée dans l'agence, je peux pas. Et plus il y a de hauteur sous plafond, plus c'est cher. Il y a rien, ce sont des mètres cubes de vide, mais chacun est à 20 000 euros. Les riches sont des gros pigeons. Moi, je connais rien Victoria Beckham. Comme tous les mélomanes, j'ai bien sûr profondément méprisé l'Espace Girl. Mais c'est tout. Donc, je démarre le truc. Et en fait, c'est mieux que les séries espagnoles où des personnes sur la brèche font l'amour en plein braquage de la plus grosse banque de la ville. Parce que les Espagnols, plus le projet est gros, plus ils s'excitent. Tu les envoies hacker la BCE, ils font quatre gosses, quoi. Je sais pas si vous avez vu ce doc sur Victoria Beckham. C'est comme la série d'Arte en 45 épisodes Hegel et l'idéalisme allemand, mais avec plus de paillettes et moins de philosophie. Victoria, il raconte son parcours. Et à un moment, elle aborde la question de son sourire, qui est le grand absent de sa vie. Elle ne sourit jamais. C'est la Mathilde Panot des Anglais. H24, elle tire la tronche du pédophile que Google Maps aurait mené à un EHPAD au lieu de l'école. Et forcément, bah, je me suis un peu retrouvé parce que je suis pas le mec qui sourit le plus dans ce monde. Je crois qu'à moins sourire que moi en Île-de-France, ils sont deux et tous les deux sont morts depuis 3 ans. Hein, d'ailleurs, Emma Beaujean, voilà, la dame qui se rapproche le plus du mot teenage dans cette radio, m'a déjà comparé à un vampire. Hein. Non mais Daniel, c'est celui qui butine sa mère. Oldelap, c'est Pascal Brutal avec ses bracelets de force. Moi, je suis Nosferatu, quoi. Ou Nosferavu, parce que je suis à cheval sur la politesse. En fait, cette jeune femme me trouve sinistre. C'est ça qu'elle veut dire en me traitant de vampire. Elle se doute bien que je vais pas me dissoudre si elle me fait bouffer du pain à l'ail. Et elle a pas tort. Je suis comme ça, austère, sombre. Sur scène, il faut savoir que j'arrive dans un cercueil. Hein, c'est le moment où le régisseur lâche les chauves-souris en mettant du Brahms. Si je suis devenu humoriste, c'est à cause d'un conseiller d'orientation qui avait bu. J'étais en Bretagne. Parce que j'étais fait, moi, pour les pompes funèbres. D'ailleurs, j'adore rédiger des éloges aux morts. Récemment, j'ai écrit un texte pour la carrière de François Bayrou. Et c'est vrai qu'il y a une vraie injonction au bonheur. Il faut sourire, être à fond, épanoui. Ouais. Je suis la meilleure version de moi-même. Mais moi, le matin, quand on me dit ça va, je réponds pas. Bah non, Adèle. Non, mon charisme fait que je traîne surtout avec des gens de la direction. Bah non, Adèle. J'ai dormi 3 heures cette nuit à cause de mes questionnements existentiels. Je suis pas bien, Adèle. Non, je réponds. Yes, ça va. Ouh, il est là, papa. J'essaye de donner le change pour m'intégrer dans cette société absurde où on parle de santé mentale tout le temps et où pourtant il faut avoir l'air toujours super bien. Et ce que dit Victoria, c'est qu'elle non plus n'est pas une femme souriante. Pourquoi ? Alors elle explique que sur les tapis rouges, au début, son mari David se tenait toujours à sa gauche, donc elle souriait du côté gauche, ce qui lui faisait une tête bizarre. Démonstration, auditeur à l'ancienne, la team TSF. Tu iras voir la vidéo sur YouTube et ça me fera des droits d'auteur en plus. Hein. Tu l'aimes ton pastu, bah tu rac. Démonstration, donc à ma gauche, il y a Mélodie Fontaine. Toute l'âme du Nord-Pas-de-Calais concentrée dans un petit corps de comédienne formidable. Bon, mettons que je l'aime bien. Si je lui souris et que je ne souhaite pas sourire à Emma Beaujean à ma droite qui me traite de vampire, alors que je me suis fait limer les canines en 2019 chez un dentiste du 8e arrondissement qui m'a pris une blinde. Bon, bah voilà, ça donne ça. Voilà, alors très peu radiophonique ce moment, ouais. Hein, vous me direz, on dirait mes chroniques de d'habitude. Et Victoria Beckham s'est vite aperçue qu'elle avait l'air d'une conne. Elle dit que ça lui donnait l'air mal en point. Alors j'ai traduit par l'air d'une conne parce que je parle très bien anglais. Et si son mari avait été à sa droite, bah, ça aurait été le même problème de l'autre côté. En fait, il n'y a que s'ils avaient défilé sur le tapis rouge en faisant la chenille que ça lui aurait fait un sourire normal. Quoique, on sourit rarement derrière les gens. Je veux dire, dans les films UX, quand il y a une levrette, jamais le type n'arbore rapport, bah, un sourire énorme. Il y aurait un côté malsain, ça, on serait mal à l'aise. On se dirait, il prépare une farce. Il va sortir une nappe, un poudrillette et se servir de la personne comme d'une tasse sur tréteau, quoi. Tout ça pour vous dire que Victoria Beckham ne sourit plus. Alors, moi non plus, mais sans raison, parce que jamais je vais au Festival de Cannes avec David Beckham. Hein, ou alors, c'est qu'il aurait mis un truc puissant dans mon godet. Je vous conseille donc ce documentaire sur Victoria Beckham, comparé à tout ce qu'il y a d'autre sur Netflix. Franchement, c'est très, 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 très bien.
Merci. Merci, Pasturo.
Ce soir à Paris, monsieur Pasturo, s'il vous plaît.
Il sourira de face.
Voilà, totalement de face, hein, au théâtre de la Gaîté Rive Gauche.
Parfait. Sur OCS, La Famille Rose arrive, enfin une série de genres différents. Parce que non, c'est vrai, on a des thrillers, du suspense, des comédies. Rarement quelque chose sur le l'horreur entre guillemets ou le cannibalisme. C'est très original et surtout très bien joué par Chérine Boutella et Arthur Dupont. Dans un événement culturel,
il n'y a pas fini d'aller.
4 millions d'albums, 33 millions de spectateurs. C'est la première semaine de vente de quoi?
Taylor Swift.
Absolument. Taylor Swift, le dernier album de Taylor Swift. 4 millions d'albums, pardon, mais waouh, voilà.
En une semaine.
Ouais. Punaise. Record précédemment détenu par Adele, 3,5 millions. Donc elle a pulvérisé le record.
Wow, petite joueuse.
Petite joueuse, sachant qu'en plus, elle a mis vraiment toute l'artillerie à son service, puisqu'il y a en effet l'album, il y a eu un film qui a été diffusé en exclusivité dans 800 cinémas au monde pour les fans.
Oui. Sachant que les albums ne se vendent plus. Ouais. Tout le monde va sur les plateformes, n'achète pas.
C'est pour ça, c'est un record fou. C'est-à-dire que 4 millions d'albums, tu m'aurais déjà dit 2 millions, j'aurais trouvé ça énorme.
Non, est-ce que c'est pas un équivalent album par rapport au streaming?
Parce
parce
qu'en fait, ce qu'elle fait aussi, c'est qu'elle fait des objets à collectionner et parfois elle sort le même avec des couleurs différentes, des nouvelles éditions.
On l'a chez soi et on l'écoute même pas, mais on a l'objet.
Et donc les fans, puisqu'elle a vraiment une communauté très très forte, sont hyper engagés au point d'aller acheter l'objet physique. Et donc elle décline, elle est intelligente. Il y a une série documentaire de 6 épisodes qui va sortir sur Disney en décembre. Donc il y a eu le film. Donc c'est à chaque fois l'événement de l'album. Il est aussi accompagné d'autres éléments marketing.
Le film qui a été numéro 1.
Mais c'est quoi le film? Ouais. Numéro 1.
Et c'est quoi le film?
C'est sur la création, la coulisse, les coulisses de la création.
De tout ça,
ouais, c'est ça. C'est que du coup elle raconte aussi l'histoire. Elle reprend l'histoire à son compte, ce qui est hyper malin.
Il y a des guests avec Sabrina Carpenter aussi. Enfin, voilà. C'est fort.
Ouais. Marketing. Fou, leçon de marketing.
Là, on n'est plus sur l'artistique, c'est du marketing.
Pour être allé la voir en concert, elle est quand même très douée. J'étais impressionné par le phénomène. Ça tourne.
Juste pour voir, je connaissais deux chansons, mais en fait, c'est vrai que c'est assez impressionnant. C'est un grand, grand show.
C'est un vampire,
très, très. Une sorte de vampire, oui, absolument.
Non, un empire.
Mais c'est aussi un vampire. C'est aussi un vampire.
C'est peut-être ça d'ailleurs que Emma a dit. C'est un empire et pas un vampire, elle a très mal pris.
C'est vrai.
Est-ce que cette émission ne serait pas possédée?
Parlons de la musique, justement. Est-ce que votre groupe K est toujours d'actualité?
Non. K, en fait, c'était un groupe que j'avais avec un ami et on a arrêté pour justement moi, parce que j'avais besoin d'écrire de nouvelles chansons.
Ouais, tout seul.
Et tout seul. Et donc là, depuis, j'ai écrit plein de chansons. Il y en a 4 en mixage là pour les sortir fin de l'année. Je sais pas encore quand.
Sur plateforme directement
Pour l'instant, j'ai pas de label. J'envoie à droite à gauche.
Est-ce que t'as filmé les coulisses de la prépa?
Et je suis en train de filmer en ce moment.
Oui. Que ça interroge aujourd'hui. C'est-à-dire que sortir un album, c'est plus aussi simple qu'avant.
Moi, ce sera un premier morceau, un deuxième morceau, etc.
Il y a plein d'artistes qui font ça maintenant.
Mais le truc, c'est que sortir un album tout de suite, surtout sans label, c'est beaucoup d'investissement personnel.
Bien sûr.
Et donc, je préfère sortir petit à petit, avec vraiment des choix artistiques qu'on assume avec mon pote avec qui je fais ça, et on verra pour la suite, mais en tout cas voilà.
La voix d'Arthur Dupont, chanteur, c'était dans Bus Palladium. C'est gênant.
Que tu le veuilles. Ouais. C'était des chansons composées par Yarol Poupeau. Et Yarol m'avait proposé, on se connaissait pas, il me dit bon écoute, on va bosser ensemble, est-ce que tu veux coécrire le texte? Je dis à fond, vas-y, viens.
Super.
Et du coup, on se donnait rendez-vous chez lui dans son studio, et toute la nuit on écrivait.
Studio. Oui, parce que studio c'est trop long.
Non, mais arrêtez. Tous ici disent dire de prod, tu vois. Donc,
non, on dit pas ça.
Absolument pas.
La famille Rose avec Arthur Dupe et Chérine Boutte.
Merci Nag.
Autre question, on cherche un homme connu mondialement qui a inspiré deux auteurs. Il a 54 ans, il est complètement terrifiant. Ses positions prennent la direction de l'extrême droite politiquement. Récemment, il a été ministre, mais ce fut de courte durée. Absolument, bravo. Je pensais que vous alliez parler d'un Français. Parce que comme j'ai dit que c'était de courte durée, je me suis dit, tiens, voilà, peut-être qu'on a envisagé. Voilà, c'est ça. Elon Musk, qui est le personnage de plusieurs romans, notamment La Confrontation de Clara Dupont-Mono, qu'on va recevoir la semaine prochaine, qui raconte à quel point ce personnage la glace, tout simplement. Est-ce qu'il y a des figures comme ça, mondiales, dans l'actualité, auxquelles vous vous intéressez, qui vous inquiètent sur l'avenir et la destination que prend notre monde? Eh ouais.
Non.
Pas du tout. On est complètement envie à côté.
Mais qu'à choisir?
Moi, Trump, il m'angoisse un peu, Trump, quand même. M'angoisse, parce que je trouve que c'est
tu fais quoi?
Le discours et puis les faits, tout ça, le niveau d'exigence en termes de diplomatie, en termes de
mais ce qu'il dit,
non, mais c'est surtout ça, même de choix de mots, de choix de manière, enfin tout le niveau a fait ouah comme ça, et c'est lui maintenant qui
toutes les gaffes,
franchement, c'est toutes les gaffes.
On se demande s'il est idiot.
Non, il est pas
idiot. C'est la stratégie du fou, mais
on parlait de marketing tout à l'heure. Il y a le film Le Deal, c'est le mec, il est en train de faire un deal et il se dit: plus c'est gros, plus ça marche.
Mais est-ce que ça serait pas...
Et ils traitent la planète comme des gros deals, en fait. Même les accords de paix...
Est-ce qu'on n'obtient pas des résultats, finalement?
Mais en promettant des millions à différents États.
Bien sûr,
c'est fou.
Et personne ne dit rien. Personne n'a...
Mais c'est ça, c'est fou.
Mais pardon, si le résultat, c'est la paix...
À la Knesset, en Égypte,
c'est
un problème.
C'est pour ça qu'ils ferment.
Est-ce qu'ils réussiraient pas là où les autres ont échoué?
Question ouverte, on répondra demain.
4 heures pour vous.
C'est quoi, tu sais, je crois que c'est entre l'Albanie et l'Azerbaïdjan, je sais plus, il y a eu cette...
Il s'est trompé.
Mais c'était fou.
Armanie,
et t'as une scène entre les deux dirigeants devant Macron et qui disent tu nous as pas félicité pour notre accord de paix.
Alors qu'il y a 10 000 km entre nous.
Ouais, c'est fou.
Et vous, Chérine?
Oui, pareil, je dis.
Ah, pareil.
Oui, ok. Ah, ouais. Voilà.
Vous voulez pas faire un effort.
Mais si j'avais discuté en même temps, pour moi, c'est une réponse commune. Je veux dire, en même temps, je trouve ça sidérant, tout ce qui sort de sa bouche, tout ce qu'il dit, quoi, ça n'a pas de sens, et qu'on le laisse parler, qu'on laisse dire autant de bêtises sur tous les sujets. C'est phénoménal. On vit dans un monde incroyable aujourd'hui.
La famille Rose, la semaine prochaine sur OCS, et vous serez dans Belphégor.
Tout à fait.
Chérine Boutella, l'adaptation du roman d'Arthur Bernède. Ça sera sur M6 et sur Max.
Ouais, d'abord HBO et ensuite M6, absolument.
Et quel rôle jouez-vous?
Alors, le personnage principal, qui est une restauratrice d'art, qui travaille au Louvre, et qui rencontre ce masque, voilà, qui va réveiller plein de démons.
Le Louvre a été aussi l'une des scènes d'Arsène Lupin, dans lequel vous jouez.
Tout à fait. Je n'ai pas eu l'occasion d'y aller, donc là, c'était un peu ma revanche. J'ai pas tourné, en fait, moi, dans Lupin, au Louvre. J'y étais pas. Donc là, c'était vraiment une belle revanche. On a passé. C'est exceptionnel. Tu vois, Louvre que pour toi. Bah, après, c'est le soir, il y a quand même une ambiance un peu. En plus, tu tournes Belphégor, donc c'est un peu. Pas glauque, mais voilà. Mais c'est exceptionnel.
Bah, c'est hanté.
Ouais, il y a quelque chose. Il y a quelque chose de très fort, mais c'est incroyable. C'est fou.
Et c'est la saison 4 d'Arsène Lupin, c'est ça?
Waouh, même moi, je suis perdue avec les parties, les saisons, mais je crois que c'est partie 4, saison 2 ou 3. Franchement, ça, je suis perdue.
Et quelles envies à suivre de projets que vous venez de lire ou d'être au théâtre?
Théâtre. J'y vais de plus en plus. C'était pas, j'allais pas beaucoup avant, mais j'ai de plus en plus. Et pourquoi pas? Mais là, pour le moment, c'est une petite. Pas pause, mais voilà, c'est un peu plus lent aujourd'hui, plus chill.
Très bien.
Et c'est très bien, j'ai des belles sorties, j'ai dessus cette série, puis Belphégor, je suis très contente.
Arthur Dupont, la musique, on sent que c'est ce qui vous occupe en ce moment, ou c'est toujours en parallèle de...
Ça a toujours été en parallèle, sauf que là, vraiment, à un moment donné, je me dis, mec, il faut concrétiser ça. J'ai pas envie que ça reste dans mes tiroirs.
Mais c'est monter sur scène
Alors, je suis déjà monté sur scène avec ce projet-là, mais là, c'est sortir les morts. En fait... C'est des choses qui, vraiment, ces morceaux-là me tiennent vraiment à cœur. C'est pas un prétexte pour faire de la musique.
Ça serait de quelle famille musicale?
Je dirais un petit peu, comment dire. J'adore Mathieu Bogarde, par exemple. J'adore Ben Mazuet, mais j'adore aussi Claude Nougaro. Enfin, c'est de la chanson, vraiment. Et avec du groove.
Et quand les textes. Et vous faites les deux?
Et oui, je fais les deux, Je fais les deux. J'ai composé, j'ai écrit.
Au cinéma, vous serez le 15 avril 26 à l'affiche d'Une fille en or.
Avec Pauline Clément, Un film de Jean-Luc Gagé. Une comédie romantique
qui est complètement décalée. Elle est décalée en, parce que c'est ce que disait Pauline Clément. Là, on était à un festival et elle disait c'est une comédie musicale, une comédie romantique, qui est
plus révélateur.
Absolument. Moi, j'adorais ça. Une comédie romantique qui se veut pas du tout commerciale dans le sens où ça coche pas les cases qu'on a l'impression d'attendre, quoi.
On comprend rien à ce que vous dites, Arthur.
Oui. Bah justement, c'est exactement une des cases. Non, mais c'est-à-dire que ces deux personnages qui sont complètement inadaptés sociaux, ils sont inadaptés les deux. Il y a aucune raison pour qu'ils se rencontrent et qu'ils s'apprécient. Et
ça, c'est que toutes les comédies
romantiques. Oui, mais au fur et à mesure.
Et on sait qu'à la fin, ils sont ensemble.
Oui, mais il y a un décalage. Okay. Il y a plein de personnages autour qui sont complètement farfelus. Il y a Loïc Legendre, qui est complètement étrange. Il y a Quentin Dolmer, qui est un personnage déjà dans la vie. Il a un emploi, mais il le sait. C'est-à-dire qu'il a une personnalité.
Il a un emploi, il est bizarre.
Et qui transparaît à l'écran, et c'est génial. Ça nourrit d'une couche qui n'est pas écrite, tu vois. Et donc, il y a plein de personnages comme ça. C'est un rythme. C'est un peu un ovni, ce film-là, et d'une grande délicatesse.
C'est une femme qui n'a pas beaucoup de confiance en elle.
Absolument, ouais. Okay. Il n'y a pas beaucoup d'estime de son père. Elle a un père qui ne l'aime pas trop, qui ne l'a jamais vraiment considéré. Et elle cherche un boulot, et elle va faire un entretien d'embauche.
Un patron tyrannique.
Un patron tyrannique, mais surtout un patron complètement psychorigide qui se trouve, habite dans la même cage d'escalier que son père. Et c'est une rencontre folle, et il va l'engager pas parce que son profil l'intéresse, mais pour une autre raison.
La famille Rose sur OCS à partir de la semaine prochaine. Chérine, en une phrase, Chérine Boutella, vous diriez que la famille Rose, c'est...
délicieux.
Et vous, Arthur?
Ah, c'est une histoire de famille.
En une phrase.
En une syllabe.
Waouh! Il y a Chérine qui m'aurait fait, faut pas lui demander une phrase.
Non, mais c'est une vraie équipe, hein, c'est ce que je veux dire. C'est comme chez vous, en fait, tu vois. C'est une famille tout à fait normale, avec un régime alimentaire très étonnant.
Des excuses à présenter, Daniel Morin.
Oui, désolé pour nos auditeurs courageux et qui ont découvert ce matin la bande de Chiffmol, de Trouillard, de Tiroflan, de Jean Foutre, qui est en réalité cette bande originale. Et que j'ai peur des clowns, et que j'ai la trouille des enfants morts, et que j'ai horreur des champignons de pied. Bah, c'est pas avec vous qu'on va gagner la guerre. Hein. Dommage que Nagui ait pas demandé à Aldolaf. Ah si, t'as demandé?
Ah bah non, c'est vrai, j'ai pas demandé. Aldolaf, t'as peur de quoi?
J'ai peur de trop de mémoire, désolé.
Désolé pour les 4643 feuillantins, les habitants de la Fouillouse. Eh ouais, désolé pour Patrick Bouchet, le maire de la Fouillouse, charmante commune du Forez, à 6 km en gros de Saint-Etienne. Ça culmine, je crois, à 420 mètres d'altitude. Enfin, je dis tout ça de mémoire. J'espère que vous accueillerez Aldolaf comme il le mérite.
J'espère aussi.
À l'arbalète. Désolé enfin pour Nagui qui ce matin a dû faire l'émission du Plex de chez Gégen, le PMU à côté de la maison de la radio. Alors mon Nagui, c'est bientôt fini, hein, tu peux rallumer ta clope et te resservir un pastis, je commande les entrecôtes.
Ça fait partie de la BO ça aussi, il y a beaucoup de musique dans la famille Rose.
Il s'est battu fort le Real pour avoir ça avant. Il s'est battu très fort.
Et ça fonctionne. Et c'est bien réalisé aussi, on n'a pas insisté suffisamment là-dessus. Enzo Croisier en est le réalisateur, avec Chérine Boutella donc devant la caméra, Arthur Dupont, Capucine Valmarie, Lou Adriana Bouzioan, Gaspard Meyer, Romane Boringer. Là aussi, on n'a pas assez insisté sur le rôle de Romane qui est un rôle clé. Non, mais c'est un rôle clé parce qu'elle paraît très effacée au début. Et il y a tout un jeu aussi. Si, on n'a pas parlé des moyens, des vols qui sont commis, des galères.
On n'a parlé de pas grand-chose.
Il y avait beaucoup de facettes. On a oublié aussi ce côté.
Il y a des disparitions qui refont surface et qui vont ouvrir des enquêtes et qui vont faire en sorte que...
Le
village dans lequel ils atterrissent.
Le Breuil,
là où ils ont cet accident, c'est un village dans lequel ils sont passés 7 ans auparavant.
Et ils ont déjà fait des trucs.
Il se trouve qu'ils ont peut-être laissé des traces de méfaits.
Voilà.
Et c'est écrit par Tigran Rosin, pardon, parce qu'on l'a pas, je sais pas si on l'a cité.
Non.
C'est le scénariste, c'est le créateur de la série, Tigran Rosin.
Il y a Camille Appart et Julien Gallet aussi, auteur de cette série. Voilà. Et il y a aussi toute une histoire autour des cartes postales écrites qui ont aussi une importance.
La guille, les trésors.
Et vous avez reçu Arthur.
Et un pendentif.
Et vous avez reçu, Arthur, le prix du meilleur acteur de la compétition pour Série Mania.
Ah bah, dis donc.
C'était cool.
Bah voilà.
Ces petits plats.
Et franchement, je n'y croyais pas du tout parce que je me disais, c'est pas un personnage spectaculaire, tu vois, épique, etc. Et donc j'étais d'autant plus.
Non, mais ne demandez pas de réaction, Arthur, c'est bon.
Non, mais je fais ce que je veux, Daniel. Ne me touchez pas, Daniel.
À partir du 21 octobre sur OCS, deux épisodes. Ça sera les mardis à 20h50, deux épisodes par soirée. Et c'est également disponible à la demande. Merci beaucoup, Chérine. Merci
à vous.
Rendez-vous demain avec Laurent Mariotte. Belle journée.